Vous entrez dans les ateliers de la nuit. Que laisse-t-on derrière soi, sur un territoire que l'on a vécu, peint, aimé? Vincent Van Gogh est venu pour la lumière. Il l'a habité. Il lui a donné certaines nuances. Il a fait corps avec le paysage. Corps, ce sont les yeux, le soleil, mais aussi les oreilles, les sons, les bruits. Van Gogh a passé un certain temps en Arles, du 20 février 1888 au 7 mai 1889. 444 jours exactement. Il a alors écrit 400 lettres à son frère Théo. Il a produit 200 œuvres, entre esquisses, dessins et tableaux. Et il se tranche le lobe d'une oreille qu'il apporte, selon la légende, sur un plateau à une fille. Kay Mortley part dans la ville d'Arles avec cette question. Avant de se couper l'oreille, qu'est-ce que Van Gogh a pu entendre, entre les murs? Et aujourd'hui, est-ce qu'il habite encore? Est-ce qu'il hante les rues, les voies, les corps? Est-ce que la lumière est toujours la même? Est-ce que les tournesols se vendent bien? S'est-on transmis le souvenir de sa silhouette? Était-il aimé? Dans les voies arlésiennes, il y a l'image de cet homme, dont on avait parfois un peu peur. Il était venu chercher la lumière, il a déposé son ombre. Nous sommes hors temps, hors saison, et pourtant tout sonne et résonne aujourd'hui de la même façon. Van Gogh nous parle de voix, de chant, du mistral. Les ateliers de la nuit reprennent ce soir, après un moment de silence pendant cette grève de 28 jours à Radio France. La radio publique permet aux créateurs, aux auteurs de documentaires et à Kay Mortley en particulier, depuis des années, des enquêtes poétiques. Elle permet de ne pas aller à l'évidence, d'emprunter des chemins de traverse, de penser plus loin. La maison ronde ne tourne pas sur elle-même, elle vit avec et à travers le réel. La radio n'a pas peur de la vie moderne, mais elle est contre la vie réduite, les questions réduites, l'esprit réduit. La vie réduite, qui à toute époque s'est révélée dangereuse. Ce soir, l'esprit est ouvert à celui de Van Gogh. Kay Mortley interroge d'abord des lieux, le dancing, les arènes, le pont, les berges du Rhône, la taverne, et ensuite des couleurs. 444 jours en Arles, l'escale de Vincent par Kay Mortley et Manouchak Fachaï.
Été 1887.
Lot 16 is by Vincent van Gogh, La Maison Jaune, in Arles from 1888 at $1,900,000.
£3 million.
$2 million now. $2,100,000.
$2,200,000.
At $2,300,000.
$3,800,000.
$2,300,000. Thank you. At $2,300,000 now.
£4 million. 5-2.
Il me reste 2 louis.
4-5, 5-5.
At $2,300,000.
5-2, £6 million.
Je crains ne pas savoir comment passer les jours d'ici jusqu'à ton retour.
5-8, £6 million.
Si tu peux m'envoyer encore quelque chose, je tâcherai de faire encore des tableaux, car je suis tout à fait tranquille pour mon travail. Je voudrais surtout être moins à ta charge. J'espère faire des progrès pour que tu puisses montrer ce que je fais sans te compromettre. Je me retire dans le midi pour ne pas voir tous ces peintres qui me dégoûte en tant qu'homme.
Oh non. pas d'oreille, là. Ah, non, non. Elle était trop loin. Il l'a piqué trop loin. Il l'a piqué trop loin. Allez, t'as fait ce que t'as pu. Non. Non. Ça mérite pas. Non. Pour couper une oreille pour la mériter, il faut que le torero et le taureau soient très bons. Pour couper une oreille, pour couper deux oreilles, il faut qu'ils soient encore meilleurs. Et pour couper deux oreilles et une queue, il faut qu'ils soient sans bon. C'est mérité. Alors là, il a fait un tour de la reine parce qu'il a voulu faire plaisir au public qui avait demandé une oreille, mais il ne l'a pas obtenue. Mais il a fait un tour pour le public. Ah, bah alors là, ils ne sont pas contents contre la présidence. Ils respectent.
Jours
en Arles.
Acte 1.
L'escale de Vincent.
Le départ. Premier tertio.
Van Gogh, qu'est-ce que ça évoque pour nous ? C'est un mec qui était par là, en province, là, il a été à une corrida, et puis ils l'ont mis à la présidence. Ils ont demandé l'oreille, et puis il s'est coupé l'oreille. Et puis depuis ce jour-là, il n'a plus été voir une corrida, parce que comme tout le monde demandait l'oreille, il a pris un couteau, il s'est coupé l'oreille. Mais l'oreille, il croyait que c'était pour le matador. Et alors il y a tout le monde l'oreille. Alors, il a pris le couteau, il s'est coupé l'oreille. Et après, ils l'ont enfermé à Saint-Rémy.
Qu'est-ce qu'il a fait, ce type ? Moi, j'ai fait artisan peintre pendant 45 ans, et on fait rien pour moi. Et Van Gogh, voilà.
Il lui a fait une fondation.
Et pour moi, pourquoi ils ne la font pas ? Je mérite quand même.
Ouais,
des placards sous l'évier. J'en ai peint des milliers de placards sous l'évier.
Ouais, mais toi, tu t'es pas coupé l'oreille. Toi, tu aimes pas les
toits.
Et lui, il est resté là. Il aimait la province. Toi, tu aimes rien. C'est très bien, Van Gogh.
Le 21 février 1888. Durant le voyage, j'ai autant pensé à toi qu'au nouveau pays que je voyais. Il y a partout au moins 60 cm de neige. Il en tombe toujours.
Il n'était pas aimé en Arles, monsieur Van Gogh. Il a énormément souffert, c'est vrai, dans cette ville. Il n'a pas été reconnu, hein. C'est quand même bien que les Arlésiens lui rendre quand même cet hommage. C'est important parce que...
Après, ce qui est très intéressant, c'est le regard d'artiste contemporain sur l'œuvre de Van Gogh. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai entendu des réactions assez violentes. Oui, mais quel est le rapport avec Van Gogh ? C'est-à-dire qu'il était incompris, mais est-ce que les artistes contemporains sont compris ? Enfin, c'est en ça, moi, que je trouve que c'est très intéressant, puisque de toute façon, les tableaux de Van Gogh, on ne pourra jamais les sortir de là où ils sont.
On ne sait pas si c'est les Arlésiens qui lui rendent hommage, ou c'est l'institution, Fondation oui, Van Gogh, qui
non,
fait ressortir.
Même les Arlésiens,
on ne sait pas si les Arlésiens vraiment rendent hommage. Qu'est-ce que vous ressentez, vous ?
The Van Gogh Museum. The Van Gogh Museum.
It's there, but it's closed.
It's closed.
Oh, it's closed.
Merci.
So, when is it going to be open?
In 2 weeks, I think.
Okay. Merci.
But, could I talk to you?
Sure, oui.
Pourquoi vous vous intéressez à Van Gogh ? Why are you interested?
I love him. I've seen his work in Amsterdam and in New York and in Washington, D.C. I want to see it here.
You know, there isn't any of his work here, usually.
Okay. Well, you make me happy, because we walked here and we loved the city, but we are not missing Van Gogh, because he's not here.
What do you like in his work?
The freedom and the colors.
Mm-hmm.
What am I, on television? No, she's not a tour guide. She interviewed me about for the radio.
What do you like in Van Gogh's work?
Exuberance. The freedom.
I said the same thing.
Very nice. It's closed till the 19th.
It's not only closed, they don't have any Van Gogh paintings. They have one by Amsterdam.
They've borrowed one.
Oh, is that right?
The man in the straw hat.
Only one, huh?
Yes.
C'est merveilleux. C'est un peu tard parce que voilà, c'est toujours pareil, c'est quand on est mort qu'on a toutes les qualités. Mais je trouve que c'est bien que la fondation Van Gogh se soit installée sur Harlem. C'est peut-être, vous savez, où il a vécu sa passion. La passion dans le sens... Bon, je vais vous faire un petit peu de littérature. Hein. Passion, ça vient du latin pateor. Aimer, et en même temps, ça veut dire souffrir. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé avec Van Gogh.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire. Monsieur le maire. Nous, sous-signés, habitants de la ville d'Arles, avons l'honneur de vous exposer que le nommé Wood, paysagiste, sujet hollandais, habitant la dite place.
Habitant la dite place.
Avant d'arriver à Tarascon, j'ai remarqué un magnifique paysage d'immenses rochers jaunes, étrangement enchevêtrés, aux formes imposantes. Dans les vallons de ces rochers étaient alignés de petits arbres ronds au feuillage vert olive ou vert gris.
Ce qu'on voit quand on descend la rue, c'est la signature de Vincent. C'est Van Gogh qui a passé 15 mois dans cette belle ville et il a produit ses plus importantes œuvres ici, à Arles. Donc, on a ici la fondation Vincent Van Gogh, où on a pu acquérir ce portail qui a été fait par Bertrand Lavier. Et le portail ouvre et Vincent se casse en deux mots, 20 à gauche, 100 à droite. Et Bertrand Lavier a pris juste ce nom et joue aussi avec la déconstruction du mot.
J'ai aperçu de magnifiques terrains rouges plantés de vignes avec des fonds de montagne du plus fin lilas.
Vin, en vain chercher son public quand il était vivant. Sans, on voit les 100, les zéros des prix de ses tableaux qui ont multiplié depuis sa mort.
Des paysages sous la neige, ressemblant à ces paysages d'hiver peints par les Japonais.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Voici mon adresse.
11.
Restaurant Carrel.
12.
30 rue de la Cavalerie, Arles.
13.
Département Bouches-du-Rhône.
C'était une institution à Arles, le quartier de la cavalerie.
C'est l'hiver.
Il y a encore de vieux Arlésiens aujourd'hui qui se souviennent de ce quartier chaud de la ville où il y avait évidemment énormément de,
de clientèle. C'est ce quartier qu'il a le mieux connu, bien sûr. Quand il est arrivé à Arles par le train, il a traversé cette grande place Lamartine. Il est entré entre les deux tours par cette porte de la cavalerie. Il a pris la rue de droite et à très peu de distance, il a trouvé la pension Carrel. Donc, il avait voyagé pendant de longues heures. Hein, on n'avait pas de TGV à l'époque. Il devait être fatigué, il faisait froid, il y avait de la neige. Et quand Van Gogh est arrivé à Arles le 20 février 88, il y avait entre 30 et 60 cm de neige dans les environs. Ce n'était pas vraiment très, très drôle.
Les enfants, rangez-vous contre l'arrêt de bus et avancez-vous. Là.
2 minutes, je vous arrête la route.
Ah ben, la vallée du Rhône, c'est une région froide. Hein. Je ne sais plus, j'ai jamais pu retrouver qui a dit un jour « La Provence est un pays froid où le soleil brûle ».
Février 1888. Les blés ont germé sur les tables de fête. Des airs de pastorale ont résonné.
Paidebet Abertrin Telouren Ankagan.
Les 13 desserts ont été dégustés.
Bagna per bagna, autant pisa ivraïe.
Per Santo Maddaleno. L'inose sum pleno.
Alan que ven et se sient pas mal, que fugen pas men.
Ça veut dire quoi?
Alors l'année prochaine, si on n'est pas plus, qu'on soit pas moins.
Une nouvelle année commence.
Pour l'instant, je n'ai encore fait qu'un petit tour dans la ville, étant plus ou moins esquinté hier soir.
Son apparence?
Il a l'air serein, posé. Un peu vidé, peut-être. Mais triste.
Un peu désuète. Simple. Simple. Pantalon velours, le sweat chandail comme on appelait avant. Le chandail.
Je l'imaginais plutôt ancien.
Pas très rasé.
Avec de la barbe, avec les cheveux gris. Pourtant, je ne l'imagine pas jeune.
Oui, et puis il était un peu à l'ouest. Hein. C'était quelqu'un de très, bon, très performant au niveau des peintures, évidemment. Mais
là, sur Arles, il n'est pas resté très longtemps sur Arles, quand même. Même pas.
Il était un peu fou, quoi.
Mais bon, apparemment, un peu comme tous les peintres, c'est un peu tout ce qu'il y avait avec l'absinthe et tout ça.
Vous avez dû entendre parler de Madame Calvin, notre doyenne sur Arles. C'est une dame qui est décédée, elle avait 122 ans, elle est née en 1875. Et elle disait que dans son magasin, personne ne voulait servir Van Gogh, parce qu'on était persuadé qu'il était fou. Il venait acheter du drap pour tendre ses cadres pour faire ses toiles, ça n'était mauvais, parce qu'il ne devait pas se laver tous les jours. Hein. Il fréquentait ce qu'on appelait chez nous les femmes de mauvaise vie. Ce pauvre gars, je suis désolée, ben il a tout fait pour être hors norme dans une société qui s'attachait au bien penser et au bien se comporter. Enfin, après tout, la norme où elle est dans un cas pareil.
Ici, je vois du neuf. J'apprends. Et étant traité avec douceur, mon corps ne me refuse pas ses services. Hier, j'ai assisté à l'enquête d'un crime commis à la porte d'un bordel. Deux Italiens ont tué deux zouaves. J'ai profité de l'occasion pour rentrer dans un des bordels de la petite rue dite des Ricolettes. Ce à quoi se bornent mes exploits amoureux vis-à-vis des Arlésiennes. La foule a manqué l'un chez les meurtriers, maintenant emprisonnés à l'hôtel de ville. J'ai vu les boulevards de la ville, pleins de monde réveillé. Et vraiment, c'était beau.
Il est droit là, il est droit.
Oui, trop bien.
C'est bien, bien, bien.
Ici, il y a un portique gothique que je commence à trouver admirable. Le portique de l'église Saint-Trophime. Mais c'est si cruel, si monstrueux, comme un cauchemar chinois, que ce beau monument d'un si grand style me semble venir d'un autre monde auquel je suis aussi content de ne pas appartenir qu'au monde glorieux du Romain Néron. Faut-il dire la vérité ? Les zouaves, les bordels, les adorables petites Arlésiennes qui s'en vont faire leur première communion, les buveurs d'absinthe, me paraissent aussi comme des êtres venus d'un autre monde.
Acte 2.
Ce n'est pas que je me sentirais mieux dans un monde plus artistique, mais je me sentirais moins seul.
L'attente. Deuxième tertio.
À propos, dans les catalogues, il faudrait désormais insérer mon nom tel que je le signe sur mes toiles. C'est-à-dire Vincent, et non pas Van Gogh, qu'il ne serait pas prononcé ici.
Bon, bah très bien, Pascal, je vous
souhaite une belle soirée, à demain.
Ah si, on fait beaucoup de fleurs de la région, mais...
Merci,
au revoir. Hervé.
Au revoir.
Et les tournesols, ça se vend bien parce que... C'est pas une fleur qui se garde bien dans les maisons.
J'ai reçu une lettre de Gauguin.
C'est sûr que si vous vous arrêtez au bord d'un champ et que vous ramassez des tournesols à graines, ça ne se garde pas. Chez les fleuristes, on trouve des tournesols de culture. Et cela se garde au moins 15 jours dans des vases.
Il a été malade, au lit, pendant 15 jours. Il est à sec avec des dettes criardes à payer.
Ça n'a rien à voir.
Il veut savoir si tu lui as vendu quelque chose.
Il a peint les tournesols, c'est archi connu. Il a peint les iris, c'est archi connu. Mais il a aussi peint des dahlias et des fritillières. Vous savez ce que c'est ? Non. Et c'est vraiment quelque chose de très joli. Bon, les dahlias, vous connaissez. Les iris, c'était ce qu'on appelle chez nous les iris de plein champ. Bon, les tournesols, voilà. Il a réussi à rendre beau des tournesols qui commencent un petit peu à se flétrir. Il était humble, mais il réussissait à rendre l'âme d'un objet ou d'une fleur ou d'un paysage.
Ah ben oui, c'est un grand peintre. Et Arles ne l'a jamais oublié.
Le café de la nuit, là, c'est joli. Café de la nuit, c'est joli. Les couleurs qui sont super.
C'est les couleurs, voilà, les tournesols.
Le café de la nuit, il y a les iris, il y a la maison jaune.
Mais ces tableaux, il n'en vivait pas à l'époque.
Ah! Là où il, dans la chambre, là où il se trouve.
Le tableau de la chambre qu'il a fait, sa chambre avec la chaise.
La chambre jaune.
Non, non, on l'a jamais oublié.
J'ai du mal à me le représenter quand même. J'aime beaucoup Van Gogh plutôt dans l'ensemble de ce qui me laisse comme trace au fond de l'œil, quoi.
Je le vois seul, très seul. Oui, pas seulement Arles, mais... Ça a dû être quand même pour lui un choc culturel aussi. Arles, pour lui, c'était un endroit très exotique, puisqu'il est originaire de la Hollande. Donc évidemment, ici, pour lui, c'était un pays aussi exotique, peut-être... S'il était parti au Japon. La première fois que j'ai mis les pieds dans le sud, c'était 7. Je voyais ces bateaux passer, le Marrakech, les mouettes, le Mol. C'était pour moi des images tout à fait nouvelles. Donc j'imagine que Van Gogh aussi, tout était très nouveau. La lumière surtout. C'est d'ailleurs ce qu'il est venu chercher.
J'ai du mal à me le représenter quand même. En fait, je pense que pour bien se le représenter, déjà c'est un personnage complètement atypique dans un milieu qu'on ne connaît pas. Déjà, Arles, il y a un siècle, se l'imaginer, se le représenter, déjà c'est pas facile. Et ce gars qui a fait 1500 km pour venir chercher une lumière particulière et qui arrive ici, qui est complètement déconnecté du reste du monde, de la ville, des habitants. C'est difficile de se le représenter pour moi.
J'imagine qu'il a pu beaucoup fréquenter le quartier de la gare, par exemple. J'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de maisons closes et qu'il fréquentait ces endroits-là.
Il faut arriver à ce que mes tableaux se vendent pour ce que je dépense, et même plus, vu les dépenses déjà faites. Tout ne me réussit pas ici, mais le travail marche bien. En attendant, j'ai des contrariétés. Je ne peux plus rester là où je suis logé. On me fait payer trop cher de prendre un peu plus de place avec mes tableaux que les autres clients qui ne sont pas peintres. Mais... je me porte déjà mieux qu'à Paris. De l'eau froide, de l'air, de la nourriture simple et bonne. Être bien vêtu, bien couché, ne pas avoir trop d'embêtements, ni trop se laisser aller aux femmes. En un mot, prendre le taureau par les cornes. Vivre comme si on était déjà atteint d'une maladie cérébrale ou de la moelle. Pas une mauvaise politique.
C'est le printemps.
J'ai loué un atelier, une maison de 4 pièces, pour 180 francs par an. Aujourd'hui, j'achèterai une natte, un matelas et une couverture. Je dois encore 40 francs à l'hôtel. Après, il ne me restera plus grand-chose. Je suis allé payer ma note à l'hôtel. J'ai proposé un arrangement. Ils n'ont pas voulu. J'ai voulu prendre mes affaires.
Allez, l'OM !
S'ils sont opposés. Maintenant, je ne peux plus acheter mon matelas. Je dois aller dormir dans un autre hôtel. Et voilà. Donc, je voulais te demander de me mettre en état d'acheter mon matelas tout de même.
Et puis, c'est l'été.
Parfois le désir de se jeter dans l'art, de renaître pour l'art, nous quitte. Je ne sais plus qui a appelé cet état être frappé de mort et d'immortalité. Je crois qu'il ne faut pas juger le bon Dieu sur ce monde qui ressemble à une étude bâclée à la hâte, dans un de ces moments où l'artiste n'a plus toute sa tête. À en croire la légende, le bon Dieu s'est quand même donné énormément de mal pour faire cette étude.
Il n'était pas heureux parce qu'il a été incompris. La conception picturale à l'époque était très classique, un peu chichi-pompon, voilà. Et ce gars arrive et il dit, il faut de la couleur partout, il faut qu'on sente vraiment une émotion.
J'ai pensé à nouveau à Gauguin, et voici.
Alors en plus, il n'était pas de chez nous.
Si Gauguin veut venir ici, il faudrait payer son voyage et acheter deux lits.
C'est difficile de ne pas être chez vous.
Ah là là, c'était ce qu'on appelait chez nous, c'était un étranger. Et qui de plus est un étranger du dehors. La Hollande, pour les Arlésiens, c'était la Laponie, quoi.
Mais après, comme c'est un marin, nous arrivons à faire notre soupe chez nous. Pour le même argent que je dépense seul, nous vivrons à deux. Cela me chagrine de tant dépenser à moi seul. Le seul remède serait de trouver une femme avec de l'argent. Ou des copains qui s'associent pour faire des tableaux.
Arles, pour lui, ça a dû être un dépaysement assez considérable. On a du mal à l'imaginer. Les gens parlaient provençal, les femmes portaient le costume arlésien, les zouaves portaient leurs uniformes colorés. Donc ça devait être assez drôle. Le climat, bien sûr, était très différent de tout ce qu'il avait connu. L'ambiance générale. Imaginez le soir, l'été, les gens qui sortent leurs chaises devant la porte, qui discutent dans la rue. Et tout ça, c'était quelque chose de vraiment nouveau.
Or, je ne vois pas la femme, mais je vois les copains.
Arles était à la mode, hein, grâce justement à l'Arlésienne de Daudet, grâce à Mireille de Mistral. Et depuis longtemps, d'ailleurs, les auteurs parlaient souvent de la beauté, du charme des Arlésiennes. Vous savez, il y a tout un côté un peu mythique là autour, ce costume si élégant. Donc, il avait entendu parler d'Arles, bien sûr.
J'ai écrit à Gauguin. J'ai simplement dit que je regrette qu'on travaille si loin l'un de l'autre. Il m'a répondu en disant que lorsque les matelots ont une ancre à lever, ils chantent tous ensemble pour se soutenir.
Mais Arles, il y a aussi autre chose. Vous savez qu'il a toujours été très pauvre.
C'est ce qui manque aux artistes.
Et Arles, à l'époque, était une petite ville qui était majoritairement ouvrière et agricole. Il y avait là tout près les grands ateliers du chemin de fer, dont ce n'était pas une population très riche. Les paysans dans le coin n'étaient pas très riches. Il y avait une caserne de militaires, des zouaves. Et il se disait que dans une ville comme ça, le niveau de vie ne devait pas être très élevé.
S'il voulait se joindre à nous, cela nous poserait carrément comme exploiteurs du midi.
Mais très rapidement, il a imaginé de pouvoir créer ici ce qu'il aurait appelé l'atelier du midi. Et il a compris que ça pourrait se concrétiser quand il a loué la Maison Jaune. Il a été assez déçu que la plupart de ses amis peintres n'acceptent pas sa proposition. Seul Gauguin l'a fait finalement.
Pour faire de l'art, on a besoin de temps. La peinture, comme une mauvaise maîtresse, elle dépense toujours, et ce n'est jamais assez. Le seul remède serait de s'associer à un bon travailleur et à deux, de produire davantage.
En fait, on va se mettre un peu plus par là, parce que j'entends énormément de bruit.
Il y a du bruit. D'habitude, les Aliscans sont très calmes, mais il y a un gros chantier en ce moment qui se déroule.
C'est le chantier de la tour.
Voilà. La tour elle-même n'est pas commencée.
Et c'est la tour qui va abriter les expositions d'art contemporain.
Voilà, absolument. Oui, oui.
Il y a une certaine ironie.
Oui, beaucoup.
Si Gauguin ne vient pas travailler avec moi, je n'ai pas d'autres ressources pour contrebalancer mes dépenses que mon travail. Isolé, je compte sur mon exaltation de certains moments et je me laisse aller à des extravagances. Je crois que cela me ferait un changement énorme si Gauguin était ici. Mon travail me tient tellement que je n'arrive pas à lui écrire.
J'aime beaucoup cet endroit. Il y a quelque chose de tellement brut dans les sarcophages. Enfin, que... Et bien que ce ne soit pas silencieux, on entend le vide.
Jusqu'à présent, la solitude ne m'a pas trop gêné, tellement j'ai trouvé intéressant le soleil et son effet sur la nature. Mais voilà. Quand on est trop longtemps seul à la campagne, on s'abrutit. Cet hiver, je pourrais devenir stérile. Je pense que je vais commencer un nouveau tableau aujourd'hui. L'intérieur du café où je loge. C'est ce qu'on appelle ici un café de nuit. Les rôdeurs peuvent y trouver un asile quand ils n'ont pas de quoi se payer un logement ou qu'ils sont trop saouls pour y être admis. Tu me parles du vide que tu ressens parfois. Moi, c'est pareil. Je me sens toujours comme un voyageur qui va quelque part et à une certaine destination. Seulement, ce quelque part, cette destination n'existe pas. Peut-être, à la fin, vais-je découvrir que les beaux-arts et tout le reste n'étaient que des chimères. Et moi-même, rien du tout.
Allez, au revoir, mon amour. Allez,
barre
de problème, ça
vous. Ah, si j'étais riche. Quoi? Van Gogh, c'est un peintre.
Oui. Pas très grand, toujours mal rasé. Avec un grand manteau, un beau chapeau, de paille, voilà. Et plein de peintures de partout. Déambulant avec une bouteille d'absinthe dans sa poche pour peindre avec un tableau. Je crois qu'il a peint entre 2000 et 3000 tableaux quand même. Hein. 400 arles, mais c'est pas mal.
En plus, c'est une chose que ça ne m'intéresse pas du tout.
Ah ben, s'il a été là, c'est qu'il avait envie de peindre de belles choses en Provence, voilà, c'est ça.
De Gauguin, pas un mot depuis un mois.
C'est ça. Il n'a pas eu que du bonheur, il a eu aussi du malheur, hein, voilà. La misère est meilleure au soleil qu'au froid. Hein.
3,250,000. 3,300,000.
Le jour où tu pourras, voudrais-tu non pas me donner, mais me prêter 300 francs d'un seul coup.
3,250,000.
J'achèterai alors deux bons lits et des meubles.
3,350,000.
Cela me permettrait de coucher chez moi et de pouvoir loger Gauguin ou un autre.
8 million pounds.
La maison jaune, in half.
Sold at 9 million pounds.
La peinture devrait s'exécuter aux frais de la société, non pas de l'artiste. On ferait mieux de se taire.
Voilà.
Personne ne nous force à travailler. Mais voilà. Je t'assure que si tu pouvais m'envoyer un peu plus d'argent, quelquefois, cela ferait du bien au tableau.
Maintenant, on aura ici l'estampe d'un japonais, Hiroshige, du 19e siècle, femme traversant un pont sous la pluie. C'était une estampe qui a inspiré Van Gogh beaucoup. Il l'a même copiée, il a fait sa version en peinture. Et ici, on entre maintenant dans l'escalier et il y a une œuvre sonore de Fritz Hauser. Cette œuvre sonore s'appelle Assure pour Arles, escalier sous la pluie. Tout l'escalier est peint en argent et il y a tous des hachures, des petits allusions à la pluie.
Jamais la peinture que je fais n'aura aucune valeur. Vous voulez réussir et briller. Savez-vous au juste ce que vous désirez ? Dit Carlyle. J'ai en horreur le succès. Je crains le lendemain de fête d'une réussite des impressionnistes. Jamais Gauguin ne renoncera à la bataille parisienne. L'isolement, ici, est bien sérieux. Et toujours en payant. Et cela me fait énormément de mal de ne pas parler le provençal. Si Gauguin ne se plaisait pas ici, il pourrait me dire « Pourquoi m'as-tu fait venir dans ce sale pays ?» Et je ne veux pas de ça.
Ici, on voit vraiment même le Rhône. Là, on voit les bateaux, enfin. Et on voit les toits, on voit Saint-Trophime, les tours. Voilà, c'est... Et donc, si on va plus vers nord, là, il y a la place Lamartine. Et là, il y a deux bouts d'un pont qui a été bombardé dans la Deuxième Guerre mondiale.
Hier, j'ai meublé la maison.
Et là, c'était la Maison Jaune qui a aussi été bombardée.
J'ai acheté deux lits et deux paillassons. Ça m'a mangé la plus grande partie de l'argent. Avec le reste, j'ai acheté 12 chaises et un miroir. Pour loger quelqu'un, il y aura la plus jolie pièce d'en haut que je voudrais comme un boudoir de femme. Ma chambre sera très simple, meuble carré et large en bois blanc. L'atelier sera en bas.
Et puis il était aussi un peu dans la rue de la Cavalerie.
Je vais planter deux lauriers roses devant ma porte.
Oui. Là, c'était aussi un peu le quartier où il visitait les dames.
Tu verras un jour un tableau de la maison en plein soleil, ou bien avec la fenêtre éclairée et un ciel étoilé. La chambre de Gauguin. Si Gauguin vient, aura sur les murs blancs une grande décoration de tournesol jaune. Je crois que l'occasion est bonne maintenant pour que tu lui demandes « Viens-tu ou ne viens-tu pas ?»
Acte 3. Le départ. Troisième tertio.
Il paraît que les gens d'ici ont une légende qui leur fait avoir peur de l'art. Je ne crois pas que ma folie soit celle de la persécution. J'ai un besoin terrible de religion. Alors, la nuit, je vais dehors pour peindre les étoiles. Et par moments, j'ai une lucidité terrible. Lorsque la nature est si belle que je ne me sens plus et que le tableau me vient comme dans un rêve.
C'est l'automne.
Mais c'est vêtements traditionnels de gardien, en fait. Il y a le pantalon, la chemise, le gilet... Voilà, la veste d'hiver, la veste...
C'est... Oui, c'était en hiver qu'il l'avait achetée.
avec un grand col qui relevait en mettant une écharpe.
Octobre 1888.
C'est quand même la grosse côte, puisqu'à la base, c'était toute la grosse côte.
Gauguin m'écrit qu'il a déjà expédié sa malle et viendra lui-même vers le 20 octobre.
Je vois alors là des arènes, une contre-piste, des gens. Ils sont contents déjà. Hein. C'est peut-être à la fin d'un taureau, parce qu'ils sont debout. Maintenant, le taureau, il est debout lui aussi. Ça doit être une course camarguaise, peut-être. Il y a plusieurs personnes dans les arènes. C'est ancien, c'est très... Oui, ça, on tourne. Hein.
J'ai fait installer le gaz. Cela a coûté 25 francs.
Vincent Van Gogh. Je voulais pas me tromper, je ne l'ai pas dit, mais il me semblait bien.
J'ai absolument besoin d'au moins 50 francs.
Vous connaissez ces tableaux. Les tournesols, le pont Van Gogh, le café la nuit. Non, je connais Van Gogh, bien sûr. On habite dans la ville de Van Gogh. Il s'est coupé l'oreille dans une ville taurine.
Pourtant, il n'y a pas de matador en face de lui. C'était peut-être Gauguin le matador, je ne sais pas.
Ah, peut-être bien.
Le 20 octobre.
Et puis, naturellement, un jour, Gauguin est arrivé.
Gauguin est arrivé en bonne santé. Il semble se porter mieux que moi.
Il était grand, il était brun, il paraît qu'il avait des yeux magnifiques, Gauguin.
Il est très content de la vente que tu as faite.
Les taureaux.
Il t'écrira sûrement aujourd'hui.
Le souterrain, là où il y a le tauril. Par ici.
Il est très intéressant comme homme. J'ai confiance qu'avec lui, on fera des tas de choses.
Les taureaux descendent comme ça, ils viennent comme ça, ils passent par-dessous, et là, puis ils vont là-bas, et ils s'en vont là-bas. Ils ont des cases, tout, ils sont chacun dans une case. C'est allumé, tout, ils sont bien là, ils sont au frais. Après, ils vont avoir chaud.
Je suis désolé que mon travail ne se vende pas.
Ce soir, c'est un grand soir, car c'est Juan Batista qui va tourer. Seul face contre 6 taureaux.
Lance-moi la bombe! Vas-y, passe-moi ça! Passe-moi ça!
Le jour viendra où on verra que mes tableaux valent plus que le prix de la couleur et de ma vie.
Vous filmez quoi là, monsieur?
Je prends du son.
Hein?
Je prends du son.
Le son? Il y a quel son? Il n'y a pas de son ici. Ah bon? Vous me prenez même mon son à moi?
Ouais.
C'est pas bien de prendre mon son à moi.
Le jour viendra où je vendrai moi aussi. Nous sommes éreintés. Nous allons au café. Nous nous couchons de bonne heure. Voilà l'existence.
Alors, si le taureau meurt, comme d'habitude, on lui coupe les oreilles?
Ça dépend du travail du matador. S'il a été très très bon, il aura une oreille, deux oreilles, voire les deux oreilles et la queue.
Et qu'est-ce qu'il fait de ses oreilles?
En général, il les donne au public. C'est un trophée. Après, pourquoi l'oreille? Pourquoi pas la patte? Parce
que... On entend avec l'oreille.
Oui, mais bon, là, le taureau, une fois qu'on lui coupe, lui, il n'entend plus, là, déjà.
Gauguin a presque fini son café de nuit. Gauguin travaille à une femme nue dans du foin, avec des cochons. Gauguin a fait revenir de Paris un pot magnifique, avec deux têtes. Gauguin est un bien grand artiste et un bien excellent teintin. Gauguin, malgré lui et malgré moi, m'a un peu démontré qu'il était temps que je varie un peu. Je commence à composer de tête. Gauguin me disait l'autre jour qu'il avait vu un tableau de tournesol très beau de Claude Monet dans un grand vase japonais très beau, mais qu'il aimait mieux les miens.
C'est l'automne.
Vincent l'avait attendu depuis le début du mois de juillet où Gauguin accepte de venir. Pour lui, c'était vraiment une joie formidable qu'un ami accepte. Et puis après, c'est vrai que sur le terrain, il y a une terrible électricité dans l'air.
C'est l'automne. Et l'automne va vers l'hiver.
Il faut dire aussi que c'est la mauvaise saison. Le mistral, les périodes de pluie les empêchant de sortir. Alors dans la maison jaune et dans l'atelier, ça devait être un peu difficile. Nous allons passer côté soleil, ce sera plus agréable. Oh, mais attendez, je crois que j'aperçois une Arlésienne en face, regardez. Une Arlésienne en costume. Bonjour madame, excusez-nous de vous arrêter. Elle prépare une émission sur Van Gogh. Et de loin, on a vu l'Arlésienne.
Le problème, c'est que je viens
vous allez à un enterrement. Voilà, ouais. C'est ce que je pensais, parce que vous êtes vêtue...
Oui, aujourd'hui, c'est vraiment pas un jour de costume, oui. Mais...
Vous êtes magnifique. Suis... Non, mais je vous en prie, dites, c'est tout à fait normal. Tout à fait. Alors ça, le costume d'Arles a beaucoup frappé Van Gogh. Il en parle à plusieurs reprises. Il a bien regardé les Arlésiennes. Il aurait voulu en peindre, mais malheureusement... Comme il le disait lui-même, je ne suis pas assez belle amie pour qu'on vienne poser pour moi. Il était complexé, c'est vrai qu'il n'était pas très attirant peut-être, c'est vrai qu'il n'était pas très aimable non plus. C'était un étranger, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en plus, on considérait qu'il peignait extrêmement mal. Donc les gens pensaient que poser pour un peintre comme ça, c'était un peu se ridiculiser.
Et maintenant, l'hiver est là.
La peinture, il paraît qu'il attrapait des colères terribles parce qu'il n'arrivait jamais à être pleinement satisfait d'un tableau. Les femmes qu'il a rencontrées, soit elles l'ont rejeté, soit c'est encore pire. Je veux dire, on a retrouvé une coupure de presse qui explique que Van Gogh s'est présenté un jour dans un bordel pour une dénommée Rachel. Il était un des clients réguliers de cette Rachel qui lui disait « Toi, c'est pas que je t'aime, mais je trouve que tu as de jolies oreilles. »
Et maintenant, c'est presque Noël.
Et cette Rachel, à choisir entre deux clients, Gauguin, lui, quand même, lui a beaucoup plus plu. Donc, elle a expliqué à Van Gogh qu'il allait falloir partager.
Les blés germent dans des soucoupes pour les tables de fête. Les 13 desserts ont été préparés. Des airs de pastorale résonnent.
Van Gogh, ça lui a fait tellement de peine qu'il est arrivé un jour avec son oreille coupée en lui disant « Voilà, c'est pour toi. »
On ne sait pas s'il y a de la neige. Il ne l'a pas dit.
Dans tous les cas, tout cela a été lamentable. Que veux-tu que j'en dise de plus ? Tournesol jaune, tournesol jaune, tournesol jaune. La peinture, le mistral, le mistral, tournesol jaune. Tournesol jaune, la peinture. Mistral. Le 2 janvier 1889. Théo, à présent causons notre ami Gauguin. L'ai-je effrayé? Après, j'ai eu beaucoup de fièvre, une perte de sang considérable, une artère a été coupée. Plus redoutable est l'insomnie. La souffrance de ce côté-là, à l'hôpital, a été atroce. Curieusement, j'ai pensé tout le temps à deux gars. Gauguin et moi, nous avions parlé de deux gars. Je lui ai fait remarquer que Degas avait dit un jour « Je me réserve les Arlésiennes ». Le 9 janvier, on vient de m'avertir que pendant mon absence, le propriétaire de ma maison aurait signé un contrat avec un bonhomme qui a un bureau de tabac pour me mettre à la porte.
En conséquence, les sous-signés ont l'honneur de demander, au nom de la sécurité publique, à ce que le nommé vote
soit plutôt réintégré dans sa famille ou que celle-ci remplisse les formalités nécessaires
afin de prévenir tout malheur qui arrivera certainement un jour ou l'autre.
Le 28 janvier. Hier soir, j'étais aux Folies Arlésiennes. C'est la première nuit que je passe sans cauchemar. On donnait ce qu'on appelle ici une pastourale. Le 3 février 1889. J'ai été hier revoir la fille où j'étais allé dans mon égarement en me disant que des choses comme ça, ici, dans le pays, n'ont rien d'étonnant. Les gens du pays qui sont malades comme moi me disent « On peut vivre vieux ou jeune, mais il y aura toujours des moments où on perd la tête. » Avec ce petit pays d'Arles, je n'ai pas besoin d'aller aux tropiques. Je suis trop vieux et surtout, si je me faisais remettre une oreille en papier mâché, trop en carton pour y aller. Gauguin le fera-t-il ? Je songe à accepter mon métier de fou. Mais pour l'instant, je n'ai pas tout à fait la force nécessaire.
Jours en Arles.
437, 438, 439, 440.
L'escale de Vincent.
443.
Voix, Denis Lavant, les lettres à Théo et Chloé. Avec la participation de Pitché Couriga, Geneviève Roupinet et d'autres habitants de la ville. Musique, Fritz Hauser, Bizet, Fanfare et Roseau. Remerciements, Musée Réatu, Fondation Vincent Van Gogh, les Arènes d'Arles, l'Office de Tourisme, la boîte à musique Von Urgianova. Attaché de production, Inès de Bruyne, Alice Ramon. Coordination, Irène Omelianenko. Prise de son et mixage, Bernard Laniel et Jean-Michel Bernon. Réalisation, Manouchak Fachaï. Une émission du Quai Mortelet.
Vous pouvez réécouter, podcaster cette plongée dans la ville d'Arles sur la trace de Vincent Van Gogh et le son de ses toiles par Quai Mortelet, 444 jours en Arles, l'escale de Vincent. Tout est sur le site internet de France Culture. Demain soir, les ateliers de la nuit reprennent la route. Nous partons en quête de chansons avec Arthur B. Gillette du groupe Moriarty. En 2001, il a fait une expédition avec son complice Thomas Puechavi sur la route du blues. L'attrape-chanson, un vrai faux journal intime d'un apprenti ethnomusicologue.